Vous allez bien, vous avez vu, ça a fondu, quel bonheur. Il y a Liliane qui, vous connaissez tous Liliane, qui m'écrivait sur Facebook, elle disait « Oh, pourquoi tu dis que la neige ceci, la neige cela, le cadre chez vous c'est si beau, c'est si merveilleux, enfin bon, sur les photos il manque juste les biches. » Je dis « Oui, mais les biches elles sont comme moi, elles n'aiment pas la neige. Il n'y a pas que les biches, il y a aussi les sangliers, les cygnes qu'on voit de temps en temps, les hérissons que Potter ne peut plus chasser. Ouais, je dois être une espèce d'animal comme ça qui hiberne, j'aime pas la neige. » Je suis bien content qu'elle a fondu. Et puis, il ne faut pas que Nicolas reprenne pour que ça tombe. Hein. Vous avez vu, Nicolas est pris, ça tombe. Hein. Faut qu'il arrête. Hein. Ou alors, on va prier pour que ça tombe chez lui. Alors, il serait peut-être content. Bon, quand je parle de Facebook, si vous m'entendez sur Internet, il ne faut pas venir sur Facebook avec moi. Je vais très rarement là-dessus. Et puis, je veux pas ce truc-là. C'est juste deux ou trois personnes comme ça, des vieux amis d'il y a 40 ans en arrière. Mais ne venez pas vous inscrire sur Facebook, s'il vous plaît, j'ai pas le temps. Merci. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi sur Révélation Bible, c'est mieux, mais pas sur Facebook. Merci. De toute façon, je répondrai pas, parce que c'est trop, ça prend trop de temps. Là, j'ai dû zapper plein de choses, c'est trop difficile. Excusez-moi, hein, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Bien, donc ce matin, on va étudier Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30. C'est là, on continue, hein. On continue notre étude sur le sermon sur la montagne. Et donc, 27-30 ce matin, 5-27-30. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer. Hein. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Amen. Amen, mais où ? Comme on l'a déjà vu pour ce qui concerne la colère et ce qui concerne les insultes, eh bien, Jésus, étant les implications du sens véritable du commandement de Dieu, tu ne commettras pas l'adultère, et il va bien au-delà d'une simple interdiction de tout acte sexuel illicite, il va bien plus loin. L'interdiction qui frappe l'adultère, après Jésus, eh bien, ça inclut l'imagination, le regard de convoitise. Alors, frères et sœurs, tout comme on sait que nos paroles peuvent tuer, la Bible nous parle de ça, puis on sait, on a vu, nos paroles peuvent tuer, eh bien, nos regards et notre imagination peuvent vivre dans l'adultère. Et ce que Jésus nous interdit, ce n'est pas de ne pas regarder une femme ou de ne pas regarder un homme, parce que sinon, si c'est ça, alors on comprend et on dit, voilà, d'accord, alors on va se mettre la burqa. À quoi cela sert-il que Dieu ait fait des belles femmes pour qu'on leur mette la burqa? Quelle souffrance, n'est-ce pas, pour ces... Enfin, à mon avis, c'est une souffrance pour elles. Il y en a qui disent non, mais bon, c'est vrai que tous les goûts sont dans la nature, mais je ne crois pas que Dieu veut ça, qu'on cache les femmes ou qu'on cache les hommes, parce qu'on pense qu'aux femmes. Mais hé, les femmes aussi, elles peuvent avoir des regards de convoitise, non? Ben alors, il faut aussi mettre la burqa sur les hommes, sur la main, sur les femmes, non? Simone le dit, oui. Voilà, donc, Philippe, enfin, on va commander le tissu. Voilà. Ce que Jésus nous interdit, c'est de regarder avec convoitise. Alors, qu'on soit marié ou non, qu'on regarde avec convoitise une personne mariée ou non, tout ça n'a rien à voir. Toutes formes de pratiques sexuelles sont interdites en dehors du cadre du mariage et qu'elles aient effectivement lieu ou qu'elles se vivent en pensée ou simplement dans le regard. Et Job avait fait un pacte avec ses yeux. Vous pourrez lire ça chez vous dans Job 31. Il a fait un pacte avec ses yeux. Je pense que ça serait bien aussi qu'on fasse un pacte avec nos yeux au sujet de tout ce qu'il y a sur, par exemple, Internet. Frères et sœurs, l'enseignement de Jésus, qui est donc confirmé par l'expérience de Job, parce qu'il a fait l'expérience, lui Jésus, il avait un regard pur, mais Job, c'était qu'un simple bonhomme, eh bien, il a fait l'expérience. Eh bien, cet enseignement de Jésus, il est encore valable aujourd'hui, il est encore vrai aujourd'hui. Notre imagination, mes frères et sœurs, c'est un don de Dieu. Vous vous rappelez, je vous ai souvent enseigné Éphésiens 3:20 qui nous dit que Dieu, par l'Esprit qui est en nous, peut aller au-delà de tout ce qu'on prie et ce qu'on imagine, ce qu'on pense. C'est vrai que le don de Dieu, l'imagination, c'est un don de Dieu très puissant et qui nous différencie des autres animaux. Je dis bien des autres animaux parce qu'en fait, on est des animaux, hein, mais très évolués, hein, quelque chose d'extraordinaire. Mais donc, l'imagination, c'est un don qui donne une densité à notre vie. Les animaux n'imaginent pas, enfin, je ne crois pas, du moins, ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui, ou ce que je vois chez mon chien, par exemple. Voilà. Mais on doit utiliser l'imagination selon les règles établies par Dieu. Et Dieu nous rend responsable de notre façon d'utiliser notre imagination. L'imagination non contrôlée, elle peut conduire à l'avilissement, à la ruine. Et, il faut bien l'avouer, comment est-ce qu'on pourrait céder à une tentation si nos yeux ne sont pas d'abord à l'origine de la tentation? Notre regard. Alors voilà l'enseignement de Jésus. La maîtrise de notre comportement sexuel, ça passe par les yeux. Voilà, ça passe par les yeux, par le contrôle volontaire de notre regard, par le contrôle volontaire de notre imagination. C'est là que ça se passe. Il faut arrêter de dire que c'est des pulsions, des machins. Non, ça se maîtrise, mais bon, des fois, il faut un peu de temps pour arriver à maîtriser ça. C'est des tempêtes qui peuvent arriver, il faut apprendre à les maîtriser. Et ça peut prendre des fois un peu de temps, mais il faut les maîtriser. Plus loin, l'autre jour, Jésus va dire que pour tous les péchés en général, là il parle pour le sexe, mais pour tous les péchés en général, il nous dit si votre pied est pour vous une occasion de chute, il faut couper. Donc les mains, les pieds, tout, hein. Et puis nos mains, et tout ça, si c'est une occasion de chute. Matthieu 18, 8. En ce qui concerne les pieds et les mains, comme je vous le disais, donc c'est ce qui concerne toutes sortes de péchés, tous les péchés. Mais en ce qui concerne la sexualité, principalement c'est l'œil, les yeux. Alors, écoutons bien ce que Jésus veut nous enseigner, parce que si on ne comprend pas bien ce que Jésus veut nous enseigner, ça peut nous conduire à des égarements incroyables, des déviations fabuleuses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Origène d'Alexandrie. Origène d'Alexandrie, ce n'était pas n'importe qui, c'était un exégète, mais c'était au IIIe siècle. C'était quelqu'un, on en parle encore, hein. Et il était tellement, n'est-ce pas, sur tout ce que Jésus disait, mais alors à la lettre, il a fini lui-même par demander, et s'est fait castrer. Parce qu'il pensait qu'il fallait obéir à Matthieu 19, 12. Alors Matthieu 19, 12, c'est aussi une parole de Jésus, hein. Il dit, il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, c'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça. Et puis il y en a qui le sont devenus par le fait des gens. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un les a castrés pour une raison ou pour une autre. Et il y a ceux qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du règne des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Origène avait prétendu comprendre, puis il en avait fait une doctrine, il s'est fait castrer, et puis il était le modèle de plein de gens qui, voilà, beaucoup l'ont suivi, à tel point qu'au concile de Nicée en 325, pour une fois ils ont fait quelque chose de bien, au concile de Nicée 325, ils ont interdit le coupage des pieds, le coupage des mains, l'arrachage des yeux et de couper les testicules. En 325, ce que Jésus veut nous dire, par là, c'est qu'on a le pouvoir de l'autocensure. On a le pouvoir de l'autocensure. Ça nous est donné. Paul, il dira ça, il dit une chose très claire, parce qu'il a compris que ce que Jésus attend, c'est que nous traitions notre corps durement, plutôt que de tomber dans le péché, c'est ça, et puis d'aller finalement en enfer. Et l'apôtre Paul l'a très bien compris. Dans 1 Corinthiens 10, 27, il dit « Je malmène mon corps ». Il ne le chouchoute pas. Je malmène mon corps, je le traite comme un esclave. De peur qu'après avoir fait la proclamation donc de l'évangile pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Vous voyez, l'apôtre Paul, il est chaud. Hein. Eh bien, il maltraite son corps, il malmène son corps, il le traite comme un esclave. Il n'est pas à l'écoute de son corps pour suivre tous les désirs, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont mal compris ont commencé à enseigner quoi? La mortification. Vous avez entendu parler de ça, la flagellation, je ne me rappelle plus comment on appelle ces trucs qu'on met, vous avez vu peut-être ça dans le film Le Code de Vinci, hein, ils se mettent des cilices, c'est ça qu'on appelle, hein? Je ne me rappelle plus comment on appelle. Enfin, toutes sortes de supplices pour mortifier le corps, pour, voilà, pour le traiter, mais ce n'est pas comme ça que Jésus veut parler. Jésus nous enseigne que nous devons porter notre croix, c'est vrai, et c'est-à-dire qu'il veut que nous rejetions les pratiques pécheresses au point d'en arriver à être mort au péché. C'est ça qu'il veut dire. La mortification, c'est être mort au péché, ce n'est pas mortifier son corps, le punir, le traiter comme... comme quelque chose de sale, comme quelque chose de mal. Quand l'apôtre Paul dit qu'il malmène son corps, ça veut dire qu'il n'obéit pas à tous les désirs que son corps peut avoir. Ou par exemple, les regards. Notre regard, la Bible dit que notre regard, c'est comme le séjour des morts. Il veut toujours voir encore. Comme le séjour des morts qui dit encore, j'en veux encore. Eh bien, il dit non, je ne regarde pas. Je me rappelle... quand on était plus jeune, tout au début, il y avait le frère, on appelait le petit Charlie. Mais maintenant, il a vieilli. Hein. Je l'ai revu à Toulouse il n'y a pas longtemps. Bonjour Charlie, bonjour Marie, si vous nous écoutez sur Internet. Je me rappelle quand on regardait un film et qu'il y avait des gens qui s'embrassaient, hop, ils regardaient par terre. Ils faisaient attention. Et moi, j'ai toujours trouvé ça admirable chez lui. C'était... Tout le monde n'est pas au même point, n'est-ce pas, dans l'effet que ça peut produire. Mais chacun sait ce qu'il doit faire afin d'éviter que ses yeux soient pour lui une occasion de chute. Alors, il dit donc dans Marc 8, 34, si quelqu'un veut me suivre, Jésus, hein, il dit, qu'il se renie lui-même. C'est dans ce sens-là, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Paul enseigne la pensée, la même pensée de Jésus dans Romains 8, 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, selon vos pulsions, selon vos désirs, selon vos envies, vos regards de convoitise, selon vos pensées adultères, selon votre imagination débordante et pas toujours propre, eh bien vous mourrez. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Donc voyez bien que vivre selon la chair, c'est... accepter les agissements du corps en mettant l'esprit et les choses de l'esprit de côté. Mais si on est maître par l'esprit, quel esprit ? Notre esprit, avec le secours du Saint-Esprit, bien sûr. Mais le Saint-Esprit ne va jamais le faire à votre place. C'est votre esprit. Vous êtes un être spirituel avant d'être un être charnel. Et votre esprit doit prendre les rênes et puis alors faire mourir les agissements du corps. Si vous faites ça, vous entrez dans l'obéissance et vous avez l'aide de Dieu. Alors ils parlent tous les deux, donc Jésus et l'apôtre Paul, de la même chose. De quoi ? D'une prise de pouvoir spirituel. D'une prise de pouvoir spirituel par l'esprit sur nos yeux, sur nos pensées. En fait, ils parlent de ce que j'appelais l'autocensure volontaire. Pourquoi ? Dans trois buts principaux, peut-être même quatre, mais en tout cas trois, dans le but de plaire à Dieu, de vivre éternellement, d'être heureux, et puis je rajouterai même encore en plus un quatrième, de rendre les autres heureux, parce que si on fait ce que notre corps veut, eh ben on finit toujours par rendre quelqu'un de malheureux. Non ? Le monde est malheureux à cause de ça, mes frères et sœurs. Il ne veut pas, il dit que c'est l'évolution des mœurs. Bon, je trouve que ce n'est pas une évolution à l'envers, oui, mais voilà. Paul, il reprend encore cette pensée de Jésus, cette pensée que Jésus a exprimée sur la montagne dans son sermon. Et il écrit aux Galates, Galates 5, 24, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. » Ils l'ont crucifié. Et mes frères et sœurs, nous avons à crucifier notre chair. Et comme je dis souvent, on ne peut pas se crucifier tout seul. Vous pouvez vous clouer un pied, deux pieds. Vous pouvez vous clouer une main, mais il y a toujours une main que vous ne pouvez pas clouer tout seul. Donc on a besoin des autres pour nous crucifier. On a besoin que les autres nous crucifient, quoi. Au moins une main. Au moins une main. C'est-à-dire nous mettre le doigt là où ça fait mal en disant ça, c'est pas bien. Et alors on comprend, on dit c'est vrai, alors crucifie-moi cette main, puis voilà. On a besoin des autres. Alors, c'était une pensée que Jésus avait donné et que Paul a développé pour notre bien, à nous qui lisons les choses qui concernent les enfants de Dieu. Parce que ce que Paul a écrit, c'est à des enfants de Dieu qu'il l'a écrit. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les enfants de Dieu. Pour les gens du monde, pour les gens qui ne sont pas régénérés, ça n'a rien à voir. C'est pour eux, ils ne sont pas sous cette loi, ils sont dans leur monde, à eux. Mais nous sommes dans un autre monde, dans un autre royaume. Crucifier votre chair, ça ne signifie pas littéralement qu'on doit mettre notre chair sur une croix, qu'on doit s'acheter une croix et puis qu'on doit se crucifier dessus. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Non, 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 ce n'est pas ça. Donc, bien, vous comprenez bien que c'est spirituellement qu'ils en parlent, aussi bien Jésus que Paul. On n'a pas crucifié nos mains réellement, on n'a pas crucifié nos pieds réellement, on n'a pas à les arracher, ni nos testicules, ni rien du tout. Mais c'est spirituellement, on prend le contrôle. Crucifiez votre chair, s'arracher un œil, ça revient à dire que celui qui porte sa croix, en fait, il est comme un aveugle qui ne distingue plus, qui ne voit plus ce qui autrefois le poussait à pécher. C'est ça que ça veut dire. Mais voyez-vous, Origène, il n'a pas compris comme ça, hein. Mais il était très sincère, parce que pour en arriver au point où il en est arrivé, il était très sincère, mais il avait une mauvaise compréhension. C'est pourquoi il faut toujours le secours du Saint-Esprit pour qu'on comprenne les choses. Pour qu'on comprenne, parce que c'est des choses qui sont très incisives. Et c'est quand même pas rigolo non plus, hein, de lire ces choses-là au premier degré. Il faut les comprendre là. Que c'est beaucoup plus important encore que ne commet pas l'adultère, c'est même en pensée, même d'un simple regard, mais il faut savoir maintenant comment faire avec ça. Comment vivre avec ça, parce qu'on a à vivre. Celui qui crucifie réellement sa chair, celui qui voudrait vraiment se mettre sur une croix en bois avec des clous dessus, mais comment voulez-vous qu'ensuite il vive par l'esprit là-dessus? C'est pas possible. On doit vivre dans ce monde par l'esprit, mais que notre chair soit tenue pour morte. Et c'est comme, par exemple, si vous vous crucifiez spirituellement, c'est comme si votre main, c'est-à-dire les choses que vous faisiez qui étaient mal, ou si vos pieds, c'est-à-dire les lieux où vous conduisez vos pieds, s'étaient rendus infirmes pour le mal. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. Et ça veut dire que, plutôt que d'être au service du mal, ben maintenant c'est au service du bien, c'est au service de Dieu, c'est au service des autres. Amen. Mais tout ça, ça va avec le reste de tout ce que la Bible enseigne, mais ça, il faut absolument le dire une fois. Jésus, il a fait beaucoup, il a dit beaucoup de choses, mais il y a eu un sermon principal, c'était celui sur la montagne, qui est une perfection magnifique, et je crois qu'on n'aura jamais fini d'en faire le tour. Là, je prends des grands points, des grandes lignes, et puis il y a des hommes de Dieu qui ont prêché là-dessus d'une façon extraordinaire, mais il y a aussi Origène qui a prêché là-dessus, puis il a dit... C'est même couper les machins. C'est terrible, hein? Donc, il faut faire attention. Il faut être sûr que c'est vraiment les choses comme Dieu les dit, ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça. Amen. Cet enseignement, donc, il s'adresse, on le voit, vraiment à notre génération. Parce que, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'images. Un monde d'images qui se glisse dans nos maisons, dans nos chambres, dans l'intimité, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez, j'ai été l'autre jour pour changer un abonnement, enfin, je vous fais un résumé, et puis le bonhomme chez Orange, en voyant mon compte, il me dit, mais vous avez des milliers, des milliers, des milliers de points depuis 9 ans? J'ai dit, oui. Alors il me dit, mais qu'est-ce que vous avez comme iPhone? Alors j'y monte, il me dit, mais c'est une vieille charrue, vous savez qu'avec vos points, vous pouvez avoir le nouveau, ou pour rien du tout. Alors j'ai pris le nouveau. Alors, vous savez pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous appuyez sur un bouton, là, voilà, j'appuie sur un bouton, pouf, qu'est-ce que j'ai? 60 chaînes de télévision, d'une pureté, d'une netteté, mais c'est quelque chose, pour rien, je veux dire, c'est dans mon forfait, c'est un forfait qui me coûte moins cher que ce que je paye réellement, avec tous mes coups de fil que je passe un peu partout, c'est inouï. Voilà, là, je suis en direct avec, je sais pas quoi, il y a du tennis, là, voilà. C'est incroyable. C'est 60 chaînes de télévision dans la poche. Non, mais j'aurais expliqué ça. Ma grand-mère reviendrait. Elle ne pourrait pas croire que c'est... Elle dirait, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais oui, maintenant, c'est comme ça. Même moi, ça m'étonne. Alors, tu parles de ma grand-mère, si ça l'étonnerait. Donc voilà, les images se glissent chez nous avec une grande facilité. Et il faut qu'on soit maître. Il faut qu'on s'auto-censure. C'est ça que Jésus veut. Et puis aussi, il faut qu'on auto-censure, pas qu'on auto-censure, mais qu'on censure nos gosses, nos gamins. Parce qu'ils n'ont pas la maturité, ils ne savent pas. Il ne faut pas permettre que les enfants, nos enfants, voient des choses qui pourraient les rendre addicts, c'est comme ça qu'on dit, ou à la fin, les pousser en enfer. Parce que s'ils sont accrochés là-dessus, après ils ne peuvent plus s'en débarrasser, vous savez que maintenant il existe. Il y a des soins qui sont donnés, parce qu'il y a tellement de gens qui sont accrochés à ces trucs, qui sont obligés d'aller voir des psys pour être délivrés de ça. C'est fou, hein? Et Jésus n'exige pas qu'on se mutile, qu'on enlève nos yeux pour sa plus grande gloire, non? Mais ce qu'il dit là, ça s'adresse uniquement à ceux qui veulent vraiment le suivre, c'est-à-dire agir, réagir, parce que leurs yeux, parce que leurs mains, parce que leurs pieds les poussent à faire des bêtises. Voilà, c'est tout. Et en tant que parents, eh bien, la meilleure aide qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est de leur expliquer ces choses. ne faut pas leur arracher, leur enlever tout leur jeu, leur enlever la possibilité d'aller sur Internet. Non, ce n'est pas ça. Il faut leur expliquer les choses, leur mettre des limites et les contrôler. Et les contrôler. Les yeux, les yeux de nos enfants, ils sont. Leur cerveau n'est pas capable de distinguer encore vraiment l'importance, la gravité des choses. Parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas encore finis. Excusez-moi les enfants, mais vous n'êtes pas finis encore. Jusqu'à ce que vous deveniez adultes. Et puis, mais il y a des adultes même qui ne sont pas finis encore. Maintenant, on a des adultes qui, à 30 ans, ils ont encore 16 ans. C'est vrai, mais c'est vrai. Maintenant, les enfants, il faut que vous sachiez, vous n'avez pas le choix. C'est vos parents qui choisissent pour vous. Vous n'avez pas le choix. Vous devez obéir. Comme nous devons obéir à notre Père Céleste, vous devez obéir à vos enfants. Vous devez obéir à vos parents. si les parents doivent obéir à leurs enfants, alors c'est la fin du monde. À la majorité, vous ferez votre choix, mais pour le moment, vous devez obéir à vos parents. Si vous voulez suivre Jésus-Christ plus tard, vous ferez votre choix vous-même, mais pour le moment, vous n'êtes pas capable de dire « moi, je veux suivre Jésus » ou « je ne veux pas suivre Jésus ». On ne vous demande même pas si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes né dans une famille chrétienne, vous suivez les choses qui sont dans la parole de Dieu. Puis plus tard, vous balancerez tout ce que vous n'aimez pas. Puis c'est tout. Si vous n'aimez pas Jésus, vous le balancez. Vous vivrez comme vous voulez, comme des païens, si ça vous plaît. Mais pour le moment, la responsabilité, elle est sur le dos de vos parents. C'est-à-dire que s'ils ne vous élèvent pas correctement, c'est eux qui vont avoir des problèmes avec Dieu. Vous comprenez ? Voilà pourquoi il faut que vos parents aient du courage et vous dire non, ça c'est pas bon, ça je veux pas. Alors vous les parents, vous avez la connaissance, vous avez le cerveau qui est fini, vous savez les choses, les impacts que ça peut avoir sur une jeune vie de voir certaines choses. Alors vous les parents, Jésus vous invite, si vous voulez le suivre, vous et votre maison. Hein, l'autre il disait dans la Bible, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Alors si vous et votre maison, vous voulez suivre l'Éternel, alors vous les parents, vous êtes, et le père en particulier, il est le chef dans la maison, le chef, il est le représentant de Dieu dans la maison, et donc il a l'autorité pour dire non, ça je veux pas, ça c'est interdit, ça je veux pas. Regardez ce que vos enfants regardent, imaginez un petit peu l'effet que ça peut leur faire, et puis voilà, prenez vos responsabilités devant Dieu, si vous voulez le suivre et faire ce qui doit être fait. Vos enfants, ils sont mis sous vous, ou si vous voulez, je vous le dis en français, ils vous sont soumis, mis dessous. Et ils ont à obéir, c'est tout. Et c'est pour votre plus grand bien, les enfants, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour votre plus grand bien. Il faut veiller à cela. Vous savez, les lois à l'extrême, ça crée la burqa, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça qu'on risque de... la femme porte la burqa, on ne risque pas d'avoir un regard de convoitise. Ça, c'est certain. On n'en voit plus. C'est certain, mais ce n'est pas dans l'ordre des choses établies, parce que c'est vraiment trop... Il faut un équilibre, il faut un équilibre. C'est pourquoi vous devez parler avec les enfants. Jésus nous invite très fermement à être équilibrés, mais pas l'équilibre selon nous, l'équilibre selon lui. Mais encore faut-il le comprendre, lui. C'est pourquoi il est bon qu'on étudie ce qu'il dit. Moi, quand je me suis converti, c'était l'extrémisme qui régnait. Alors, les vieux chrétiens qui ont été dans des églises avant, vous savez, on nous faisait jeter la télé, on nous faisait jeter les livres profanes. Moi, je me rappelle, ma mère, elle avait toute la collection, vous savez, les malheurs de Sophie, et toutes ces choses-là, bien reliées, tout ça. On nous a fait jeter, c'était du diable. On nous disait, c'était du diable, puis voilà, puis il fallait être soumis aux autorités spirituelles. Donc, on a tout jeté, les disques à la poubelle, le cinéma, c'était interdit, c'était du diable et tout. Et c'est, d'ailleurs, c'est par réaction à cet extrémisme qui nous venait, en fait, des pentecôtistes des USA, parce que le pentecôtisme vient des USA principalement, que ici on a commencé à nommer les acteurs, les chanteurs et les chanteuses les idoles des jeunes. C'est comme ça que c'est venu. C'est par réaction, on a dit, nous c'est nos idoles. Vous voyez, l'idole des jeunes, ça vient de là. Par réaction, parce que ils nous disaient, l'idolâtrie, c'est une... Alors on dit, nous on a choisi, on a nos idoles. Et si on était chrétien et puis qu'on aimait bien Johnny Hallyday, on avait une idole. Donc il fallait enlever les images de Johnny Hallyday, il fallait enlever... Puis alors maintenant, pire encore, c'est-à-dire que si vous écoutez les disques de quelqu'un qui est mort, par exemple hier, il est sorti le dernier Michael Jackson, eh bien si vous écoutiez à cette époque un disque de quelqu'un qui est mort, vous faisiez parler à un mort. C'est une abomination. Vous voyez, l'extrémisme, ça rend fou, quoi, je veux dire, c'est idiot. Il faut être équilibré. N'ayez pas peur les enfants, on ne va pas tout vous interdire, mais il faudra que il y ait de l'équilibre dans ces choses, de l'équilibre. Avec le temps, bon, alors moi j'ai commencé à comprendre les choses, et puis j'ai voulu faire la volonté de Dieu, mais pas la volonté des fanatiques. C'est pourquoi aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, je dis je me laisse juger par personne. Hein, au sujet de ces choses, vraiment, je refuse. L'apôtre Paul disait, quant à moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. 1 Corinthiens 4, 3. Vous me jugez parce que ceci, bon, ben, je m'en fous. Hein. En tout cas, je sais une chose, c'est que ce n'est pas en regardant ce que je regarde, en écoutant ce que j'écoute, que mon imagination va partir dans le péché. Franchement, je le sais. Amen. D'ailleurs, Jésus dit, que l'apôtre Paul dit, pardon, que nous devons tous nous juger nous-mêmes. 1 Corinthiens 11, 31. C'est à nous-mêmes. Nous devons nous juger nous-mêmes. Bon, les parents, on doit aussi juger les enfants pour pouvoir les diriger, pour pouvoir les conduire. Mais c'est surtout nous-mêmes qu'on doit juger. Il dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne seriez pas jugé. D'ailleurs, tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin ici. Et l'apôtre Paul ne nous dit pas, jugez si vous êtes dans une bande de démons, si vous pensez qu'il y a des frères et des sœurs qui sont démoniaques ou des frères et sœurs qui sont rétrogrades ou qui ne sont pas gentils ou qui ont péché. Tout. Alors, ne prenez pas la Sainte-Seine parce qu'il ne faut pas communier avec les démons. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, jugez-vous vous-même si vous êtes digne de prendre le pain et le vin. Que chacun s'éprouve soi-même. Nous avons à nous éprouver nous-mêmes. Pas à juger les autres. Vous pouvez prendre, jugez-vous vous-même, est-ce que j'ai péché? Si oui, il faut que je règle. Une fois que j'ai réglé la chose, eh bien, je peux venir devant Dieu et puis prendre le pain et le vin. Maintenant, vous pouvez le prendre par la foi en disant, bon, je sais que j'ai fait quelque chose de pas bien contre quelqu'un, mais je prends le pain et le vin, en sortant, je vais aller régler la chose. Vous comprenez, les frères et sœurs, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des légalistes, on fait les choses d'une façon équilibrée, dans l'amour et dans la paix. Donc, là, que l'apôtre Paul termine en disant, donc, que chacun ainsi prenne du pain et du vin. Si vous vous jugez vous-même en faisant abstraction de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa bonté, vous n'allez jamais prendre le pain et le vin. Vous êtes obligé de mettre dans votre vie cette foi dans le pardon que Jésus vous a accordé il y a 2000 ans au sujet des péchés que vous avez faits. Sinon, jamais vous pouvez communier avec lui, jamais vous pouvez être pur. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes pur et vous n'osez pas prendre le pain et le vin. La Bible dit que si on prend le pain et le vin d'une façon indigne, eh bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades, c'est pour ça même qu'il y en a qui sont morts. Donc c'est grave. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui en sont arrivés là? C'est parce que ils ont jugé les autres plutôt que Dieu. Je pense déjà à d'autres choses en vous parlant. Ils ont jugé les autres plutôt que se juger eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils sont condamnés. Et c'est pourquoi il leur arrive des tuiles. Maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui sont malades et tous ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Vous voyez, on peut aussi dire ça. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré, mes frères et sœurs. Sinon, si on n'est pas équilibré, on prend un texte, on lui fait dire ce qu'on veut et ça devient de la folie. Donc, Jésus nous dit que par l'apôtre Paul, que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Par qui nous ne serions pas jugés? Par Dieu. Parce que dans la mesure où on juge, on sera jugé par Dieu. Donc voilà, si vous ne voulez pas être jugé, ne jugez pas. Ça va jusqu'au point où quelqu'un m'avait dit un jour, « Oui, si tu es si gentil avec moi qui suis jusque au cou dans l'adultère, c'est parce que toi-même tu es dans le péché. Alors comme tu ne veux pas être jugé par Dieu, tu ne me juges pas. » Vous voyez, il y a des gens tordus, mais il faut pas... Il faut être équilibré, savoir où vous en êtes vraiment vous-même personnellement avec Dieu. Le jugement des autres, c'est pas possible. C'est Dieu seul. L'apôtre Paul dit, je me juge même pas moi-même, c'est Dieu qui me juge. Dans le même texte, hein, 1 Corinthiens 11, 30, 31, 32, par l'entour. Ça signifie que nous avons une responsabilité personnelle de ne pas donner accès au péché dans notre vie. C'est nous qui avons la responsabilité personnelle. Parce que c'est beaucoup trop facile de mettre la faute sur le diable. Le diable, on dit c'est le tentateur, le diable. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. On n'a pas besoin du diable pour être tenté. On va lire Jacques 1,13, si vous voulez. Hein? Parce que ce que je dis, il faut quand même que je vous montre dans la parole de Dieu. Dans Jacques 1,13, il est dit « Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « C'est Dieu qui me met à l'épreuve. » Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve, donc par le mal. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit, puis le désir lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. C'est bizarre, faire naître la mort. Donc, si on voit bien ce texte, il est dit là que Dieu ne veut pas, ne nous met pas à l'épreuve en permettant que le diable nous tente. Comme lui-même, il ne peut pas être tenté par le mal, Dieu ne nous tente pas avec le mal. Il ne permet même pas au diable de nous tenter avec le mal. Et il explique comment ça se passe. Il dit, c'est vos propres désirs. C'est vos propres désirs. Vos propres désirs, c'est ça, c'est par ce moyen-là que vous êtes attiré par vos regards, par votre imagination, vos propres désirs, ça vous séduit. Et puis ensuite, le désir conçoit. Alors qu'est-ce que ça veut dire conçoit? Eh bien, si vous prenez le dictionnaire, c'est magnifique. Le mot concevoir, ça veut dire se représenter par la pensée. Premièrement, concevoir, ça veut dire se représenter par la pensée. Se représenter quelque chose par la pensée. Et deuxièmement, ça veut dire former en soi-même. Donc, dans un premier temps, vous avez un désir. Vous voyez quelque chose, oh, vous le regardez, vous convoitez. Ça, c'est vous représentez par la pensée. Ah, si j'avais ça, ah, comme si je pouvais faire ça, ça serait... Et puis, vous commencez à avoir un regard plein d'adultère ou je ne sais quoi, des choses comme ça, de convoitise. Ensuite, c'est donc vous représentez par la pensée. Après, vous formez ça en vous-même. Et une fois que ce désir a été formé en vous-même, il est mis au monde. Qu'est-ce qui est mis au monde? La chose qui vient au monde, c'est-à-dire qui vient dans la réalité, dans le monde réel, qui devient une réalité... Le désir qui est formé en vous va manifester une chose en dehors de vous. C'est ça, c'est ce que l'apôtre Jacques dit, c'est le péché. Une fois que le désir a conçu, eh bien, il met au monde le péché. Et le péché fait naître la mort. On va relire le texte, maintenant que je vous ai donné le processus, comment ça marche. Relisons le texte. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise... C'est Dieu qui me met à l'épreuve, car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal. Et lui-même ne met personne à l'épreuve de cette sorte-là par le mal. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis, le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Met à l'extérieur de vous le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Voilà le processus. Alors, je vous pose la question, il est où le diable dans cette histoire? Il est où le diable? Pas de diable. Où il est? Où est-ce que vous avez vu qu'il ait parlé du diable? Il n'y est pas parlé. Il est, tout ça, le péché, tout ça, ça vient, c'est uniquement dans la désobéissance. La désobéissance à quoi? Au commandement, tu ne commettras pas l'adultère? Non? Le diable, il intervient... Si vous ne voulez pas obéir à Matthieu 5, 27, 30, c'est-à-dire si vous ne voulez pas vous auto-censurer, c'est là. Ce n'est même pas une question de colère ou d'insulte ou d'adultère. C'est une question, non, je ne veux pas m'auto-censurer. Je demande à Dieu de le faire. Seigneur, enlève ça de moi. Il ne le fera jamais. Mais jamais. C'est à vous de vous auto-censurer. Et ça nous rend, comment dire, plus... Moi, je trouve que c'est plus fier, voilà, Philippe, tu as raison, c'est plus fier, je suis content, j'ai une immense responsabilité, je suis fier, Dieu me fait confiance, c'est magnifique. Le diable, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5,8, le diable rôde autour de vous, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Qui est-ce qu'il va pouvoir dévorer, à votre avis? Qui il va pouvoir dévorer? Eh bien, celui qui ne s'auto-censure pas. Uniquement. Celui qui prie et qui dit « Seigneur, délivre-moi, oh délivre-moi de ce péché, délivre-moi du mal. » Bon, c'est vrai, c'est bien de demander à Dieu son aide, mais il nous dit « Moi, je ne fais rien si toi, tu ne t'auto-censures pas. Je peux bénir que ce que tu fais. Je peux bénir que l'œuvre de tes mains, je peux bénir que tes décisions, je peux bénir que tes prises de position, mais je ne peux pas bénir au hasard comme ça, n'importe quoi, et puis te délivrer de la tentation. Mais attends, mais ça n'existe pas. » Le diable, il tourne autour de nous, il cherche qui c'est qui ne s'auto-censure pas. Et celui qui n'a pas crucifié sa chair, qui n'a pas crucifié ses yeux, ses mains, ses pieds, ses testicules, et tout le chenil, ses pensées, tout ça, il le bouffe. Il le bouffe. Le diable ne peut pas vous dévorer, c'est-à-dire ne peut pas vous tuer si vous êtes déjà mort. Si vous êtes déjà mort, ce n'est pas possible. Alors, se censurer, ça peut signifier faire des choix draconiens. éliminer certaines choses qui peuvent paraître inoffensives. Bon, tout le monde regarde, tout le monde le fait, bon, c'est pas grave. Et mais surtout, je pense, mes frères et sœurs, ça signifie que votre autocensure, elle va vous faire passer pour un puritain ridicule aux yeux des gens de ce monde, c'est-à-dire la majorité du monde. Ils vont dire, ah bon? Vous allez ressembler, aux yeux de certains, à des mutilés du cerveau. Là. Jésus vous dit de mutiler vos mains, vos pieds. Mais oui, ils vont penser que vous êtes des mutilés du cerveau. Mais faites le calcul, mes frères et sœurs. Asseyez-vous et calculez. Jésus dit que ça, c'est l'homme sage. La femme sage, elle s'assied et calcule. Jésus dit bien, si quelqu'un veut me suivre, c'est pas une obligation. Si quelqu'un veut me suivre, ce n'est pas une loi pour tout le monde. C'est une loi pour quelqu'un qui veut suivre Jésus. Alors réfléchissez, allez-vous pouvoir supporter d'être ridicule devant les gens cultivés de notre époque en disant « Ah ben, non, je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas... » Jésus, il est clair, mieux vaut perdre un membre et vivre infirme que d'être absolument intact et d'aller en enfer. C'est simple. Vous voyez, l'enseignement de Jésus, il va franchement à l'encontre des normes permissives du XXIe siècle. Franchement à l'encontre. Cet enseignement repose sur le fait que l'éternité est plus importante que le temps présent. Quand j'étais à l'enterrement de mon frère Michel dernièrement, on m'a demandé de faire la prière de consolation et à un moment j'ai dit, parce que du trop plein du cœur, la bouche parle, j'ai dit, mais Seigneur, nous sommes jaloux qu'il soit parti avant nous. Mais c'est vrai, je suis sincère. Je ne voudrais pas mourir comme il est mort, c'est une horreur. Avec ce cancer qu'il a rongé pendant des mois, il a souffert, c'était une horreur. Mais n'empêche, je suis jaloux qu'il soit parti avant moi, qu'il soit parti avant... C'est tellement plus avantageux. L'apôtre Paul le dit aussi, il n'est pas suicidaire, l'apôtre Paul, mais c'est tellement mieux là où on va que là où on est. Alors, les lois que Jésus nous donne, ce n'est pas pour nous empêcher de tourner en rond, c'est pour nous permettre d'aller là où c'est le mieux. La pureté est plus précieuse que toute la culture de notre siècle. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Qui voulez-vous suivre? Jésus ou la foule? Ça vous regarde. Les parents, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Leur imposer des lois qui vont les frustrer ou leur expliquer, parler avec eux, passer des soirées en famille où vous discutez, vous parlez sensément, où vous montrez les choses avec votre savoir, votre connaissance, votre finesse. Ou est-ce que vous voulez... qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils suivent Jésus ou qu'ils soient frustrés puis qu'à 18 ans, ils disent « Ah, maintenant, ouf, je peux faire tout ce que je veux. » Il faut être sérieux. Qu'est-ce que vous voulez? Alors ce matin, je vais faire un appel. Qui veut suivre Jésus-Christ vraiment tel qu'il l'enseigne dans le sermon sur la montagne? C'est là la question. Merci mon frère, merci que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez suivre? Et vous les enfants, est-ce que vous voulez? Est-ce que vous acceptez que vos parents disent, bon écoute, on va se mettre autour de la table, on va discuter, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour toi dans tes jeux, ou il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour toi sur Internet, ou il y a des choses qui sont... Est-ce que vous acceptez de discuter avec eux, et puis de leur obéir de tout cœur, ou est-ce que vous dites, oui, tu es en train de nous séduire, tu es en train d'essayer de nous avoir pour voir... Est-ce que vous comprenez que c'est pour votre bien? Si oui, levez votre main et dites, oui, moi je veux obéir. Moi je veux obéir à mon père, je veux obéir à ma mère. Qui c'est qui veut? Rebecca, tu veux pas obéir? Tu veux? Tu n'es pas obligé, hein? Mais si tu ne lèves pas ta main, tu es libre, hein? Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Toi aussi, Elise, tu veux obéir à papa, maman? C'est bien. C'est pour votre bien. C'est pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. On se met tous debout, parce que je crois qu'on a tous levé la main et on prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions parce que nous ne voulons pas être trouvés sales au jour de notre mort. Seigneur, tous les jours, ou au moins toutes les semaines, il nous arrive de prendre la voiture. On ne sait pas quand on part avec la voiture, si on va revenir. On ne sait pas. On pense des fois toujours que ça arrive aux autres, que les accidents arrivent aux autres. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Mais Seigneur, ce que je voudrais ici, c'est que ceux qui écoutent ce matin... Que ça soit ici ou que ça soit sur Internet ou que ça soit sur la vidéo. Peu importe, ceux qui écoutent cela, je voudrais, Seigneur Jésus, qu'ils fassent le choix de dire, ben, si je m'en vais, si je suis repris subitement, si je meurs subitement, eh bien, que je sois pur, que je sois propre et que je parte vers toi dans ton royaume et que je ne sois pas là en prison pendant quelque temps, malheureux parce que j'ai péché, ou envoyé en enfer directement. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à tenir ferme dans ma décision d'autocensure et que je sois vraiment un enfant qui te plaise, un papa, une maman qui te plaît, un célibataire qui te plaît. Merci Seigneur Jésus, merci parce que tu pardonnes nos fautes, tu pardonnes mes fautes, Jésus, je le crois. Et tu pardonnes les fautes de mes frères et sœurs, je le crois. Maintenant nous allons prendre le pain et le vin. Nous savons Seigneur Jésus que nous pouvons le faire parce que nous avons fait les bons choix. Te bénissons pour cela Jésus, nous te prions que vraiment nous puissions nous y tenir. Aide-nous, fortifie-nous par ton esprit, fortifie notre esprit par ton esprit afin que nous puissions nous tenir à nos engagements. Merci Seigneur Jésus, sois glorifié mon Dieu. Amen. Amen.